Voilà, donc vous êtes là pour présenter en fait votre deuxième livre, Assommant les pauvres.
Oui.
Et vous avez écrit par contre déjà trois
Oui.
romans, trois livres. Hein.
Oui.
Et je pense qu'en France, vous êtes sans doute beaucoup plus en train de présenter le dernier qui s'appelle
Calcutta.
Calcutta. Voilà. Juste pour situer un peu pour les gens qui nous écoutent, un peu ceux dont on est en train de parler. Parce que c'est un peu curieux actuellement à Hambourg, en Allemagne en général, mais très fort aussi à Hambourg. On parle énormément de l'immigration parce qu'il y a tout ce flot, cette migration énorme qui est en train de se faire et qui concerne beaucoup, beaucoup l'Europe, en fait le milieu de l'Europe. Je ne sais pas en
Oui.
France actuellement d'ailleurs si on en parle autant qu'ici. Donc c'est, ça a été programmé depuis un bout de temps, mais en fait ça tombe juste au bon
Oui,
moment
oui, oui.
pour parler de ce sujet-là.
Oui.
Et pour vous, par contre, ça fait déjà quelques années que vous aviez fini ce livre-là et que vous êtes sorti avec ce bouquin aussi de votre expérience. Parce que si j'ai bien retenu, vous avez perdu votre travail
Oui,
suite à la publication, c'est ça?
c'est ça, c'est ça. En fait, c'est vrai que ce livre, ce roman, je l'ai publié en 2011 à Paris, Assommant les pauvres. Et effectivement, en 2014, janvier 2014, j'ai publié mon troisième et dernier roman jusqu'à présent, Calcutta. Donc, c'est vrai qu'en France, je suis plus en train d'amener à présenter, parler dans mon dernier roman, Calcutta, qu'Assommant les pauvres. Quelque part, Assommant les pauvres, ça l'a. Ça a créé une énorme médiatisation en France, mais ça a duré de 2011, 12, 13 quand même. Et encore, quand je vais dans des rencontres littéraires où il est question de parler ensemble de mon parcours littéraire, là, il est question que je parle et de Calcutta et d'Assommant les pauvres. Ça gêne pas. Alors, en ce qui concerne le contexte politique actuel en Allemagne, c'est vrai qu'en France, ce n'est pas tout à fait le cas, parce qu'aujourd'hui en Allemagne, si j'ai bien compris, c'est les vagues d'immigration des Syriens qui est en question,
Surtout, surtout.
surtout. Et que le passage qu'ils ont pris ou qu'ils ont l'habitude de prendre, c'est justement de balcon, je passais par Hongrie, enfin ils vont aller à Hongrie qu'ailleurs en fait, si j'ai bien compris. Et il y a eu cet accident criminel pratiquement, si ce n'est pas de meurtre, mais en tout cas, on peut se poser la question, les 71 immigrés morts asphyxiés dans la camionnette, pas aux camionnettes comme des poissons morts. Dans ce contexte-là, effectivement, on peut dire d'un côté ça tombe à pic, mais aussi c'est un double tranchant en fait. C'est puisque mon roman prétendre prendre une telle position qui n'est pas tout à fait une position de la compassion immédiate. Vis-à-vis envers les immigrés qui sont effectivement dans une condition inhumaine. Donc ce livre, il est assez délicat. Déjà en France, quand il était sorti en 2011, heureusement qu'on a pu élaborer, démontrer la complexité de la situation que j'ai essayé de montrer dans mon roman, que ce n'est pas noir, ce n'est pas blanc, ni bien, ni mal, je me suis, en tant que romancier, je ne me permets pas. De dire que je détiens la vérité parce qu'il n'y a pas la vérité, il n'y a pas une seule vérité, il y a plusieurs vérités, il y a des points de vue qui se croisent. Donc, du coup, si vous voulez, ça tombe à pic en même temps, c'est assez délicat en fait, c'est un roman assez
Exactement.
délicat et donc on peut craindre que ça pourrait tomber dans les mauvaises mains d'extrême droite, n'ayons pas peur des mots, tomber dans les mains d'extrême droite qui pourrait l'utiliser comme un pamphlet d'anti-immigration. Mais justement, si on est un peu patient, on entre dans le roman, on peut comprendre qu'en fait, c'est que ce que j'ai essayé de critiquer, c'est le système d'accueil d'asile, des demandeurs d'asile, et non pas des Syriens, Africains, Maliens, tout hasard. C'est un roman très précis, concis sur un seul instant, sur un seul sujet précis, c'est celui de demande d'asile politique des Bangladais. Parce que c'est une demande économique et écologique et n'est pas politique. Et le système les pousse à mentir. C'est une usine à mensonges, on les pousse à mentir. Ils sont obligés de mentir parce que le traité de Genève est tel, signé en 1951, qui n'accepte pas, qui n'inclut pas la demande d'asile économique et écologique. Donc, du coup, ces gens-là sont obligés de mentir. Il y a un brandé d'histoire. Et entre le Bangladesh et la France, on peut imaginer toutes les péripéties, il y a des passants, des passagers, des intermédiaires, des agents qui, d'un port à l'autre, d'un pays à l'autre, aux frontières, à toutes les frontières, eux, ils mentent. Ils ont créé un énorme réseau des passeurs mensongères qui vendent les faux passeports, fausses pièces d'identité, ainsi que les faux récits. Donc, c'est ce système mensongère de mafiosins, de marché noir, que j'ai critiqué, et non pas les demandeurs d'asile, malheureux demandeurs d'asile bandés.
C'est bien que vous précisez, parce qu'évidemment, c'est ce que j'allais demander. Dans la situation actuelle, il y a une énorme vague de, pas seulement de compassion comme ça, mais d'entraide aussi visible, matérielle, qui est apportée à ces gens-là. Il y a l'extrême droite qui réagit comme toujours. Ce n'est pas un parti dans ce cas-là, c'est des gens qui clandestinement brûlent les lieux d'accueil. C'est pas une multitude, il faut dire non plus, mais ça a eu lieu. Mais en même temps, il y a une énorme vague d'entraide et de solidarité vis-à-vis des réfugiés qui arrivent là tous les jours. Là, il y a énormément de faits, et ces gens-là risquent de réagir évidemment avec beaucoup de révolte vis-à-vis d'un titre comme ça. Mais ceci dit, quelqu'un qui ose titrer un livre ainsi a une arrière-pensée, c'est évident, parce que quelqu'un de l'extrême droite, il ne dirait pas ça comme ça, il serait un peu plus adroit, je pense. Deuxièmement, bon, c'est une citation, tout le monde ne le sait pas,
De Baudelaire.
Donc là aussi, je pense que ça prend une tournure autre déjà avec ça.
Pourquoi
vous avez choisi ce titre-là qui est en même temps une citation?
Tout à fait, c'est exactement ça. En fait, dans le poème en prose de Baudelaire, il s'agit du poète qui était un jour dans un bar, taverne. Et le soir, assez tard, il sort de l'arbre et il y a un mendiant qui est à la porte, qui est en train de quémander. Il insiste, le poète ne lui donne pas l'argent, et il insiste encore. Il a une altercation pas agréable. Le poète finit par agresser physiquement ce mendiant. Et on peut demander, mais qu'est-ce qui lui passe par la tête? Pourquoi il agresse un pauvre mendiant? Et d'abord, le mendiant ne réagit pas. Au bout d'un moment, agressé comme ça, il finit par réagir, il se redresse, il se met debout. Il était accroupi au pied de tout le monde. Il se redresse, il se met debout. Et il agresse également le poète. Et à ce moment-là, le poète dit, maintenant, tu es en égalité avec moi, nous sommes en égalité. Et maintenant, je peux partager ma bourse avec toi. Donc, s'il y a un message, c'est que les gens, quand ils se rabaissent comme ça, quand ils quémandent, quand ils ne réclament pas, mais quand ils sont dans la mendicité, et quand ils se mettent dans des situations de plus en plus humiliantes pour eux, avec l'illusion, ils croient qu'ils vivraient mieux en Europe, et par la suite, on va voir comment ce n'est qu'une illusion, en fait. Et donc, quand ils sont dans ces situations-là, moi, je pense qu'en tant qu'interprète dans cette époque-là, d'où ce roman, dans mon expérience, dans mon expérience personnelle, réelle, en tant qu'interprète de demandeurs d'asile, pendant 3 ans et demi, j'étais révoltée moi-même de voir mes compatriotes, quasi-compatriotes, de se mettre dans ces situations de mendicité, de quémande, de pleurnicher, de se rabaisser comme ça, croyant que la vie, l'Eldorado, c'est au pays des Blancs. Donc, quelque part, peut-être, j'avais envie de les secouer un peu, bousculer, pas agresser physiquement, par une sorte de, je ne dirais pas provocation, mais voilà, il faut les bousculer un peu, qu'ils se ressaisissent, qu'ils voient où est vraiment la réalité.
De retrouver la dignité, en fait, de demander asile avec dignité et de réclamer un droit qui est un droit humain.
Oui, même s'ils le réclament, je ne formulerai pas précisément qu'ils réclament l'asile plus dignement, je dirais qu'ils se rendent compte dans quelle situation indigne qu'ils se mettent. Après, ce qu'ils feront avec cette conscience-là, ça leur appartient. Leur décision ne m'appartient pas, et heureusement. Donc, c'est à eux de voir comment réagir après. Mais au moins, au premier abord, qu'ils prennent conscience dans cette situation humiliante, tout d'abord, et mensongère. En fait, que le système ne les aide pas tel qu'il prétend, en fait. Parce qu'à l'OFRA, demande d'asile politique de tous les pays, on sait qu'il y a des gens qui mentent, d'autres qui ne mentent pas, qu'il y a des vraies demandes. Tandis que pour la demande d'asile bangladaise, le chiffre, c'est 100% rejet. C'est le chiffre de l'OFA, c'est leur déclaration. C'est considéré comme une demande d'asile mauvaise, c'est-à-dire ils n'ont jamais pu accorder l'asile à quelqu'un venu du Bangladesh. Et après, il reste 2 ou 3 ans, 10 ans, il essaye plusieurs fois à la CNDA, à la Cour nationale de droit d'asile, avec les avocats, il essaie, il échoue, il essaie. Donc c'est là qu'il, avec le temps, le dossier devient de plus en plus bétonné, étoffé avec les faux récits, faux documents juridiques, etc. etc. Mais donc OFA lui-même, cet organisme lui-même, il était conscient que cette demande d'asile ne vaut. Ce n'est pas une demande d'asile politique en tout cas. Donc c'est toute une affaire de kafkaïenne de l'administration française. Donc je voulais juste qu'ils prennent conscience de cette situation-là.
Alors, vous avez dit vous-même que ce roman est sorti en fait de votre expérience personnelle en tant qu'interprète dans cette situation-là. Quelle est vraiment la partie autobiographique ? Parce que vous décrivez précisément justement le cas d'une jeune interprète qui finit par agresser
un demandeur d'asile. Oui, la partie autobiographique. En fait,
vous n'avez pas fait ça ?
Absolument pas, absolument pas. C'est pas mon genre.
Ou est-ce que vous avez vécu cela ?
Non, pas du tout. J'étais ni active ni passive dans cette situation-là. Non, je n'ai pas agressé, je n'étais pas au commissariat, rien du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2009, février 2009, quand un cabinet de traduction qui est spécialisé en langue orientale, toutes les langues orientales, c'est-à-dire de l'Inde à l'Asie sud-est, etc., ils m'ont fait appel à moi pour être demandeur d'asile, pour être interprète juridique pour les demandeurs d'asile. Très bien, j'y vais. Alors, jusque-là, je suis arrivée en France, à Paris directement, en 2001. De 2001 jusqu'à 2009, jusqu'à ce que je commence ce travail, je n'avais absolument aucune idée comment ces gens-là, les Indiens, les Pakistanais, les Bangladais, visiblement, si on peut juger les gens par les signes extérieurs, qu'ils vivent vraiment mal, qu'ils sont vraiment des pauvres de chez pauvres, qui vivent tellement mal dans la région parisienne, comment ils vivent, pourquoi ils vivent ici, comment ils survivent, je n'avais absolument aucune idée.
D'accord.
Et en faisant, enfin, en commençant à faire ce travail, pour la première fois, je reçois ce monde en pleine gueule. C'est la première fois que je découvre de près comme ça, comme on est en train de passer l'interview ici aujourd'hui, il y a une troisième personne, de si près, je découvre ce monde. Et ça, c'était un choc pour moi, j'étais bouleversée. Tout ce qui est décrit dans le roman, leurs mensonges, leur détresse, leur désarroi, leur colère, leur tristesse, et l'incapacité et lassitude de notre part, ceux qui les accueillent, enfin pas moi, mais ceux qui les accueillent, et moi qui suis intermédiaire, tout ça vécu comme un huis clos de théâtre absolument insoutenable. C'est comme ça que j'ai vécu. Donc au bout de 2 mois, 1 mois peut-être je peux dire, j'étais obligée de décrire là-dessus. C'est mon deuxième roman. Après le premier roman, j'avais déjà commencé vaguement un autre roman, mais je l'ai laissé de côté. Je ne pouvais pas continuer dans ce sens-là. Il fallait absolument que je parle de cette situation-là. Chaque jour, je rentrais de travail après de 10-12 heures de travail de l'interprétariat, fatiguée, lessivée le soir chez
10,
moi.
10-12 heures.
C'est-à-dire que je commençais ma journée à 8 heures, parfois ça pourrait continuer jusqu'à 9h-10 heures du soir. Donc je rentrais le soir fatiguée, lessivée, mais il fallait absolument que j'allume mon ordinateur et j'écrive soit une scène vécue dans la journée ou la veille, un personnage qui m'a touché, qui m'a... Donc, ainsi, au bout de 3 mois, j'avais la matière première de ce roman déjà prête. J'avais déjà la matière, était là. Et ensuite, il fallait que je pense à la forme romanesque. Et à ce moment-là, je me suis posé la question que je pose toujours quand j'écris mes romans, c'est que qui raconte cette histoire et à qui et pourquoi il raconte cette histoire. Donc, j'ai pensé, voilà... C'était écrit dès le début de première personne, ça, il n'y avait pas de doute. La narratrice était déjà là, qui m'en ressemblait beaucoup. Et donc, j'ai vraiment, à mi-chemin de mon écriture de ce roman, j'ai inventé cette action de l'acte de l'agression qu'une femme, l'interprète, la narratrice, agresse un homme de même couleur, de même origine ethnique. Et c'est comme si, comme un axe, c'est comme un fer forgé que j'ai inséré là, à l'intérieur de cette matière. Et autour de cet axe-là, comme une roue, l'histoire, le roman commençait à tourner. Ça se justifiait ainsi. Donc, c'est la raison, tout simplement. Après, il y a, ça se complète le cercle. Au début, on voit le commissariat et à la fin aussi, on va voir qu'est-ce qui se passe, comment elle se justifie ou pas son acte de violence. En tout cas, l'intérêt était de raconter ce monde avec un prétexte. C'est l'acte de violence est juste un prétexte.
Qui, en même temps, semble quand même très fort. Je veux dire, c'est un axe très fort qui appelle plus que ça ne l'aurait fait comme ça, juste raconter les conditions. En fait, ce cauchemar, ça a l'air d'être plutôt un cauchemar, hein, tout ça. S'il n'y avait pas eu cet accident-là, et justement, c'est bien que vous ayez précisé là que c'était une agression, je veux dire, d'une personne du même pays à une personne du même pays, ça c'est capital, parce que les agressions qu'il y a en Europe, c'est en général, c'est les gens du pays d'accueil, entre guillemets, oui, qui agressent les gens qui arrivent. Hein. Donc c'est pas du tout cette situation-là, en fait. C'est une ancienne pauvre qui agresse un pauvre pour reprendre le terme pauvre, entre guillemets.
Entre guillemets, de pays du Sud. Sud. Alors aussi, c'est là-dessus, c'est la question, c'est que ce qu'on peut-être n'imagine pas tout de suite facilement dans les pays du Nord, dans les pays riches, c'est que dans n'importe quel pays dans le monde, que ce soit, enfin maintenant, restons précis, autour de mon livre et dans le livre, c'est-à-dire l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan, Sri Lanka, ancien sous-continent indien, c'est-à-dire, il y a autant de pauvres que les gens de classe moyenne. Aujourd'hui, l'Inde, il y a plus de 15% de classe moyenne qui peuvent tout acheter, hein. Ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent, le voyage en Europe, séjour en Europe, meilleure école, ordinateur, chaque mois ils changent de téléphone portable. Alors du coup, c'est-à-dire c'est aussi pour moi un conflit de classe, c'est-à-dire la narratrice, elle vient d'une classe moyenne aisée, elle se considère intellectuelle, et dès le début on voit que la question aussi qui l'a tourmenté, c'est que ces gens-là n'arrivaient pas à atteindre un niveau intellectuel, linguistiquement parlant, culturellement parlant, qui lui convient. Il y a un tel décalage social, un tel décalage de classe, que ça aussi, ça l'a beaucoup gêné. Quand on voit que ces hommes, principalement venus du Bangladesh, une majeure partie, qui ont un bagage culturel et religieux qui leur permet pas d'accepter la présence d'une femme de la même couleur en tant que personne qui interroge. Et donc ça aussi, ça gêne. Ces gens-là, ils acceptent qu'une, je vais dire les mots, une blanche, ils acceptent une blanche les interroge, mais ils n'acceptent pas une femme de la même couleur les interroge, même si elle n'est qu'un intermédiaire. Donc je veux dire qu'il y a plusieurs points de conflit, plusieurs raisons de conflit qui se jouent entre eux. Il y a non seulement une question entre les pays de riches et des pays de pauvres, et à l'intérieur même de pays entre guillemets pauvres, on voit qu'il y a des différences de classe sociale, niveau intellectuel, différences de bagages culturels, des raisons religieuses aussi. Il n'y a pas d'un côté le pays du Nord, de l'autre côté le pays du Sud. C'est pas aussi homogène. Sans vouloir commenter la situation de conflit de classe qui existe en Europe, je peux parler de ce que je connais mieux, peut-être, comme les pays comme en Inde, au Bangladesh, ancien sous-continent indien avec Pakistan. Là aussi, il y a plusieurs classes, il y a des conflits de classe, et là encore, il y a plusieurs éléments qui entrent, qui enveniment davantage la situation. Les demandeurs d'asile acceptent qu'une blanche les interroge, mais ils n'acceptent pas, ils ne comprennent pas comment une femme de couleur, même d'origine ethnique, les prennent de haut comme ça, les interroge. Donc il y a d'un côté, dans le pays du Sud, il y a aussi des différences de classe. La narratrice, elle est de classe moyenne, aisée, intellectuelle, elle maîtrise plusieurs langues, elle a une aspiration intellectuelle plus haute que les autres. Donc du coup, il y a le conflit social, économique, je dirais même religieux, parce que dans certaines pratiques, je ne dirais pas c'est écrit dans le texte sacré, mais en tout cas dans les pratiques, on voit que peut-être on n'est pas si habitué à accepter la position de la femme comme la position de force. Donc il y a plein de raisons qui ajoutent que pour la narratrice, ça devient un troisième sous ce conflit, non seulement le conflit entre le pays du Nord et le pays du Sud. Et d'un côté, je voudrais ajouter aussi, c'est que très curieusement, ou peut-être que c'est très normal, que les officiers de protection, c'est-à-dire qui sont majeure partie des blancs et des blanches des pays d'accueil, des pays du Nord, eux, ils ne comprennent pas la position ou la réaction de la narratrice non plus. Eux, ils pensent que c'est normal que si elle est de même couleur, qu'elle soit de le côté de ses compatriotes. Donc pour eux, ça paraît comme une trahison. Elle se prend pour qui, pour quelle raison elle vient vers nous comme ça. Et moi, je dois dire que je n'ai aucune... Moi, maintenant, je parle pas de la narratrice, mais de moi. Je n'ai aucune solidarité ethnique. En fait, je ne le comprends même pas parce que je le considère comme l'autre facette de la même médaille, c'est-à-dire le racisme. Si, systématiquement, je pense que puisque c'est mon peuple, donc je devrais être solidaire avec eux, dans ce cas-là, systématiquement, je vais être contre un peuple qui est dans la position ennemie avec mon peuple. Ça sera donc systématiquement, je vais être anti-pakistanais parce que je suis indienne, ça je ne peux pas. Je vais être anti-bangladais parce que je suis indienne, ça je ne peux pas. S'il y a des conflits, par exemple, comme le Wisun ArcelorMittal, c'est la Mittal qui était un industriel indien et Arcelor était industriel français, dans cette histoire-là, qui a gagné? C'est finalement les industriels multinationales, c'est les riches qui ont gagné, c'est les patrons qui ont gagné. Et c'est les ouvriers français qui ont perdu dans cette histoire-là. Donc, moi, je suis pour les ouvriers, que ce soit de français ou indien, vous voyez. Donc, je vois les choses de façon un peu plus internationale que locale et ethnique.
Mais ça, c'est un point très important, que de voir le racisme des deux côtés. Ça me semble important.